Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de HSD, votre rubrique consacrée aux pilotes en activité en Formule 1. On a déjà vu quasiment tous les champions du monde, il nous en manque plus qu'un, il s'agit de Jenson Button, très certainement le plus sous-coté d'entre eux, et on va voir également pourquoi. Donc Jenson Alexander Lyons Button est né le 19 janvier 1980, donc aujourd'hui il a 35 ans, vous aurez fait le calcul rapidement. Il est né à Frome en Angleterre. Alors Frome, c'est une ville qui est située dans le sud-ouest de l'Angleterre. La passion du sport automobile lui a été transmise par son père. Et oui, son père qui était d'ailleurs pilote de rallycross et un pilote assez connu d'ailleurs en Angleterre dans les années 1970. Et d'ailleurs récemment, on a vu une vidéo où David Coulthard et lui s'essayaient au rallycross et s'amusaient comme de petits fous d'ailleurs dans des voitures de rallycross de l'époque, hein, et c'était une grande expérience pour Button d'entrer dans une voiture qu'a pu côtoyer son père. Hein. Button a toujours été très proche de son père, on le voyait même en F1 dans le paddock. Malheureusement, son père est décédé il y a peu, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Voilà. D'ailleurs, en 2014, vous avez pu voir peut-être... Et distingué sur le casque de Jenson Button, le casque rose, c'était marqué Papa Smurf, et bien c'était en hommage à son père. Concernant, on va dire, ses débuts à Jenson Button, eh bien pas de surprise, c'est à 8 ans, un peu comme tout le monde, hein, il commence le karting à 8 ans. Par contre, là c'est un peu moins comme tout le monde, il remporte sa première compétition à 9 ans. Hein. Il n'a pas le temps, hein, directement dans le bain, c'est le British Super Prix qu'il remporte à 9 ans. Lors des années 1990 et 1991, il remporte le championnat cadet britannique deux fois. Il remporte ce championnat avec en 1991 en plus une énorme perf puisqu'il gagne toutes les courses. En 1991, il gagne toutes les courses de championnat. Il y en avait beaucoup, hein, c'était pas juste 2-3 courses, voilà, et puis c'est plié. Non, il y en avait 34. Et oui, vous avez bien entendu, 34 courses dans la saison et toutes remportées par Button. Bon, ensuite, il participe à plusieurs compétitions de karting au cours de sa jeune carrière. Concernant les autres gros faits de sa carrière en karting, je vais les citer quand même parce qu'il y en a d'autres. En 1995, il est vice-champion du monde de Formule A. Et oui, championnat au cours duquel il a pu côtoyer Giorgio Pantano et Dan Weldon, entre autres. Donc des pilotes qui ont été connus ensuite en Formule 1 et en IndyCar, respectivement. Et il devient alors, en 1995, donc à l'âge de 15 ans, le plus jeune vice-champion du monde de l'histoire de cette discipline à ce moment-là. Donc c'est quand même une grosse perf également. Une sacrée... il s'inscrit déjà dans l'histoire à 15 ans, donc il se fait quand même bien repérer. En 1996, il termine 3e de la Coupe du Monde de Formula. Il y avait encore Giorgio Pantano, hein, avec lui. Puis diverses compétitions de karting un peu partout, et en 1997, son fait d'armes le plus connu en karting, eh bien il remporte le championnat européen de Formule Super A, et en devient le plus jeune pilote, le plus jeune champion du monde, le plus jeune champion tout court, hein, pas du monde, hein, vu que c'est un championnat d'Europe, le plus jeune champion de l'histoire de cette discipline à 17 ans. Donc là encore, il marque les esprits, déjà il remporte une série assez célèbre quand même, Formule Super A. C'est quand même une série ouverte un peu à tout le monde, hein. C'est avec des spécialistes de karting, donc il est avec des gens très expérimentés dans l'eau, il arrive à la remporter, en plus à inscrire un record de jeunesse, c'est très fort de la part du pilote anglais. Ce record et ses énormes performances tout au long de sa carrière en karting, qui est très fast, hein, il faut bien le dire, eh bien tout ça lui donne droit à entrer en monoplace. Et je pense que c'était un bon droit. À seulement 18 ans, certes, mais c'était mérité quand même. C'était mérité. Et donc en 1998, il remporte dès sa première saison en monoplace le Formule Ford Festival. Et il remporte surtout le championnat Formule Ford britannique, où il y avait encore Dan Weldon et Marcos Ambrose. Donc deux pilotes qui iront aux États-Unis en après. Dan Weldon en IndyCar et Marcos Ambrose, je crois par contre. Je crois qu'il est en NASCAR, par contre, hein, Ambrose, hein, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi si jamais je confonds, mais il me semble qu'il est en NASCAR, ou qu'il était en NASCAR. En 98 également, il termine deuxième du championnat Formule Ford européen qui comptait 4 courses. Et à la fin de l'année 1998, après toutes ses performances, il remporte un prix prestigieux. Bon, après, c'est un prix, hein, ça veut tout et rien dire. Il remporte le McLaren Autosport Young Driver of the Year Award. Donc, la récompense du jeune pilote de l'année par McLaren et Autosport. Donc, il se fait repérer dans les médias, évidemment, et par un peu tout le monde du sport auto à ce moment-là. Et évidemment, ses performances ont bien aidé. En 1999, il participe aux 24 heures de Spa, mais malheureusement, un problème mécanique intervenu très tôt en course pendant le relais d'un coéquipier le prive du moindre tour durant ses 24 heures de Spa, et surtout offre un abandon prématuré à son équipe. Donc c'est assez dommage, mais bon, il aura participé à quelque part aux 24 heures de Spa. Il termine deuxième du Grand Prix de Macao. Il faut le dire, il termine deuxième de ce Grand Prix célèbre, hein, Jenson Button, durant lequel il y avait en 1999 également Alex Young, Christian Albers, Sébastien Bourdais, Luciano Burti, Narain Kartikeyan, Thiago Montero, donc que des pilotes qui sont allés en F1 peu ou un peu plus que peu, enfin un tout petit peu quand même pour tout ceci. Et surtout, le Grand Prix de Macao faisait suite à sa belle troisième place du championnat F3 britannique, le renommé championnat F3 britannique, durant lequel il y avait, entre autres, Takuma Sato, Alex Young, Narain Kartikeyan et Luciano Burti. Et il a également participé à d'autres compétitions en 1999. Mais voilà ses principaux faits d'armes. Donc après seulement deux ans en monoplace, eh bien, il va bientôt entrer en F1, mais on peut le dire, c'est que par rapport à d'autres pilotes qu'on a pu voir précédemment, ces deux ans n'ont pas servi, on va dire, à rien. Il n'a pas fait que deux championnats. Il a participé à pas mal de courses avec pas mal de monoplaces différentes, de voitures différentes. Donc, il a déjà une assez grosse expérience. Son expérience de la course en karting également lui sert bien, et son expérience de champion également. Donc voilà, il a remporté des titres, il a effectué des grosses performances qui sont rentrées dans les esprits, il a un prix. Bref, il est connu des services, on va dire. C'est bon, il peut avoir son passe pour entrer en F1. Et donc, en 1999, il a le droit à un test de Formule 1 à Silverstone en plus. Donc pour un pilote anglais, c'est assez énorme, c'est le rêve quand même. Un test avec une McLaren en 1999, donc je le rappelle. Et ensuite, il fera un test également de Formule 1 dans une Prost. Donc, il a l'occasion de tester deux F1 différentes durant cette année 1999. Et ça lui mène, en 2000, à sa première saison en Formule 1 à seulement 20 ans. À seulement 20 ans, il devient titulaire chez Williams. Comme les prodiges qu'on a pu voir avant dans les autres HSD, deux saisons ont suffi. Et oui, donc on pourrait se dire, finalement, deux saisons... Tu disais que c'était un peu l'exception, mais ça devient la règle, hein, à force de t'écouter. Ça pourrait être vrai, mais ça ne l'est pas, puisque Jenson Button lui-même a dit assez récemment qu'avec le recul, il aurait aimé entrer en Formule 1 plus tard que l'année 2000, en s'étant plus aguerri en monoplace, par exemple. Voilà, il a trouvé qu'avec le recul, c'était un peu tôt et que du coup, il n'était pas complètement prêt. Et en effet, il n'était peut-être pas complètement prêt puisque ses performances ne parlent pas pour lui durant les premières années du moins. En 2000, il termine 8e du championnat, donc c'est quand même honorable hein, dans la première moitié. Mais seulement, son coéquipier Ralf Schumacher fait 3 podiums. Donc il l'assomme pas mal. En 2001, Button va chez Benetton. Il marque seulement 2 points alors que son coéquipier Giancarlo Fisichella en score 8, dont un podium en plus. Et direct en 2001, Flavio Briatore, qui était à la tête de Benetton, lui lance un ultimatum à Button. Faut dire qu'entre les deux, ça n'a pas été la grosse relation professionnelle. Hein. En 2002, il reste chez Benetton, mais qui porte désormais le nom de Renault. Donc première année du retour de Renault, il y avait Button, donc évidemment en France... On a pu observer ses performances de près avec son coéquipier Jarno Trulli, et c'est l'année où, quelque part, il commence à se révéler des yeux les plus avertis, puisqu'il termine 7e du championnat juste devant son coéquipier Trulli. C'est alors sa meilleure saison en F1, mais Briatore décide quand même de se séparer de Button, car il n'aimait pas son style de vie, on va dire. Il trouvait que son style de vie entravait sa vie professionnelle. Et parce que Button pouvait avoir la réputation d'être une sorte de pilote assez fainéant qui préférait, on va dire, faire le playboy plutôt qu'autre chose. Alors que Button, bon, on l'a vu après, c'est un bosseur, c'est un compétiteur né, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un triathlète accompli, voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme avec Briatore ça se passait mal, même Briatore quand même, il décide de s'en séparer et de le remplacer par Alonso. C'est une décision qui fera, comme je l'avais dit dans le HSD sur Alonso, c'était une décision compliquée pour Briatore et qui lui donnera pas mal de critiques. Mais finalement, le futur lui a donné quelque part assez raison, même si c'était assez cruel pour Button. Entre 2003 et 2008, Button ne quitte pas la F1. Il reste en F1, il trouve refuge chez Barr. Barr qui deviendra Barr Honda et qui deviendra Honda. Donc c'est vraiment... Durant ces années-là, chez Barr Honda, c'est vraiment durant ces années qu'on le reconnaît comme un bon pilote, comme un pilote ayant un potentiel pour faire quelque chose à l'avenir. Il se révèle vraiment comme un grand espoir, vraiment. Et ses performances parlent pour lui, même si il a eu certaines années compliquées. Il y a eu des années galères chez Honda, chez Barr également quelques-unes, mais durant les années où il y a eu une bonne monoplace, eh bien il a su la magnifier et nous offrir des très bonnes performances. Et pour quiconque connaît la course, hein, pour quiconque connaît un peu la course automobile ou la course tout simplement, que ce soit en voiture ou en moto, eh bien ça se voyait que Button avait quelque chose, quoi. Ça se voyait que ce pilote dégageait quelque chose en piste et qu'il était au-dessus de la moyenne. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les saisons, ce serait long, et c'est vrai que j'ai pu le faire dernièrement dans les HSD, c'était pas forcément le bon angle. Hein. Comme je l'avais dit au tout début, HSD, c'est censé revenir sur la carrière dans son ensemble, évidemment des pilotes, mais un peu moins sur la F1, comme on la connaît beaucoup mieux, cette carrière. C'est surtout revenir sur comment ces pilotes-là sont entrés en F1 et leur perception en F1, pas tellement sur le détail des saisons. Donc, je vais revenir sur deux saisons entre 2003 et 2008. Intéressante, c'est la saison 2004, évidemment, où Jenson Button réussit à monter 10 fois sur le podium. Il s'offre le luxe d'être le premier des autres, de finir 3e du championnat du monde des pilotes, derrière les deux Ferrari de Rubens Barrichello et Michael Schumacher. Donc là, évidemment, quand on a suivi la saison, si on ne suivait pas que Ferrari, on voyait bien que Button était là, on voyait bien que ce pilote anglais avait quelque chose. Voilà, quand j'étais petit, je le dis, quand j'étais petit, c'était le pilote que je... À un moment, je l'ai supporté, hein. Ça c'est clair, c'était le pilote que je supportais. Hein. C'était pas pour rien, hein. J'avais déjà vu pas mal de courses avant ça, donc j'avais bien vu déjà à l'époque le talent de ce pilote qui sera champion du monde après. En 2006, il remporte sa première victoire, Jenson Button. Enfin sa première victoire, on l'attendait depuis longtemps. C'est cette fameuse victoire en Grand Prix au Grand Prix de Hongrie, il me semble, hein, Grand Prix de Hongrie 2006. Je ne l'ai pas noté, je le fais de mémoire, là, au talent, je vous le dis. Si j'ai faux, hein, je me rectifierai un peu partout, hein, vous en faites pas. Mais je pense que c'était le Grand Prix de Hongrie. Ensuite, 2007-2008, pas grand-chose. Hein, et il n'aura qu'une autre victoire en 2009. Et oui, en 2009, après 9 ans, 9 saisons de F1 pour être exact, et une victoire. Et c'est aussi pour ça que la majorité du public ne le connaissait pas trop, le sous-estimait. C'est parce que voilà, 9 saisons, une victoire, et quelques podiums, une douzaine de podiums, on va dire. C'est pas beaucoup dans le bagage, en effet, en termes de chiffres, mais faut pas regarder que les chiffres en F1. Et en plus, c'était pas vraiment dû à son manque de talent, pourtant. C'était vraiment parce qu'il y a eu des années compliquées en termes de mécanique. Et donc, en 2009, après ses 9 saisons, et oui, il a déjà une grosse expérience, eh bien, il a une opportunité en or avec Brown GP. Brown GP, c'est tout simplement la continuité de Honda. Hein. Ce n'est pas une nouvelle écurie, donc il reste à la maison, on va dire. Seulement, c'est pas le même nom, ça a été racheté. Il y a Ross Brown aux commandes. Et ça va faire mal. Et en gros, ça a fait mal puisque il remporte le titre de champion du monde, Jenson Button, avec 6 victoires. D'ailleurs, 6 victoires acquises dans les 7 premiers Grands Prix de la saison. Et voilà, tout simplement, il a été au-dessus de son coéquipier, au-dessus des autres. Et il a bien géré la fin de saison. Et enfin, il a la consécration qu'il attendait. Et que nous, on n'attendait pas trop en hein, début 2009, Brown GP. Bon, pourquoi pas. Bon, dès la première course, on voit qu'ils sont devant en qualif. On voit qu'ils gagnent, on se dit ah d'accord, et on les reconnaît comme des prétendants, mais c'était vraiment inattendu de la part de cette écurie. Ensuite, entre 2010 et affaire en cours, on va dire, eh bien il rejoint McLaren, l'écurie anglaise qui lui a fait de l'œil, écurie anglaise très prestigieuse, mais durant laquelle il n'aura pas de titre, mais il remportera des victoires. Hein. C'est là qu'il est dans la continuité de 2009, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de doute, on sait que Button. Des yeux du grand public, on sait que c'est un pilote de talent, on sait qu'il n'a pas volé son titre de champion du monde, même s'il a eu, on va dire, la chance de se trouver au bon endroit au bon moment. Mais voilà, chez McLaren, il score 8 victoires entre 2010 et 2012, ce qui est très bien. Dont en plus la célèbre, sa plus célèbre, une de ses plus célèbres victoires, celle acquise au Grand Prix du Canada en 2011. Et durant ces années, il tient plutôt tête à Hamilton, entre 2010 et 2012. Hamilton qui était son coéquipier. Et ben voilà, c'est assez serré entre les deux. Ils s'échangent bien les coups, les victoires. Au nombre de points, c'est assez serré généralement. Et bon, mais général, on va dire que entre 2010 et 2012, si on prend du recul, on se rend compte que Hamilton était légèrement plus fort que son coéquipier. Mais ça n'a pas empêché Button de battre Hamilton vraiment sérieusement en 2011. Puisqu'en 2011, Button se montre en étant le dauphin de Sébastien Vettel. Hein, Sébastien Vettel qui était au-dessus du lot avec sa Red Bull qui était fantastique hein, en 2011, qui n'a offert aucun suspense au reste du plateau. Eh bien, Button arrive à finir devant Weber notamment, donc devant une Red Bull. Donc c'était une grosse performance. Et il a profité également que son coéquipier était aux fraises en 2011. Donc c'était très bien pour Jenson Button. Mais bon, depuis 2013, ben il suit les galères de McLaren, il peut pas faire grand-chose. Il fait son boulot, hein, il n'y a rien à dire, il fait son boulot, il marque le maximum de points qu'il peut engranger. Je pense que McLaren sportivement peut rien dire à Button, ça c'est clair. Après, il a déjà connu des années galères chez Baronda, donc c'est pas comme il ne réagit pas mal à ces années galères. Il a eu plutôt une bonne réaction digne, humble, donc il n'y a pas de souci. Il veut cependant quand même une monoplace à la hauteur de son talent, enfin, du moins pour montrer qu'il a rien perdu de son pilotage. Il veut vraiment. Cette année, ça a été plus compliqué quand même en 2015, puisque on avait vraiment promis beaucoup de choses aux deux pilotes McLaren et ça n'est pas arrivé, même pas en fin de saison. Donc c'était assez risible. Il en riait jaune à la fin. Et bon, ouais, il essayait de prendre du recul par rapport à ça et d'y prendre au second degré. Mais on voit bien que ça l'embête, hein, et il a fait durer le suspense pour savoir s'il allait prendre sa retraite ou pas. Ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire, il avait le choix. Et à mon avis, il a peut-être donné des sueurs froides à McLaren Honda. D'ailleurs, il a été conservé en 2015 chez McLaren Honda, ben déjà parce que c'est un champion du monde. Donc par rapport à Kevin Magnussen, c'était quand même un gros avantage. Et ensuite, parce qu'il a eu des liens avec Honda. Donc pour la communication, c'est important d'avoir un tel pilote. Pourra peut-être aider dans les liens entre le motoriste et l'écurie. Voilà, c'était un peu la rétrospective de la carrière de Button hein, dans son entier. Sans en rentrer dans le détail de certaines saisons qui n'étaient pas très utiles et qui auraient rendu la chronique, la rubrique un peu lourde. Maintenant, parlons un peu de comment il est perçu Button, on va dire, de manière générale dans le paddock et par tout le monde. Alors, Button, c'est le gentleman driver par excellence, vraiment. Il ne fera jamais un coup. Je me souviens pas de. Ou très rarement qu'il ait pu, on va dire, fait quelque chose de mal en piste. Quelque chose d'agressif, non. Rarement, voire jamais. Hein. Ça, c'est vraiment. Faut vraiment la chercher, la course où il a pu. Se montrer, on va dire, mauvais envers un autre pilote. Et en plus, il a un style de pilotage particulier qui va très bien avec cette image de gentleman driver, d'où le fait que c'est un pilote assez identifiable. En effet, il a un pilotage très coulé, très doux sur le volant, même à l'époque du V10 où il fallait un peu plus, on va dire, il fallait vraiment forcer, on va dire, vu la puissance du moteur, eh bien, on voyait qu'il avait vraiment, il était très doux sur le volant. On aurait dit qu'il n'était pas dans un tour d'attaque, et pourtant, à chaque fois, ses tours sont très efficaces, même s'ils ne sont pas survoltants à la Hamilton qui va essayer de freiner toujours le plus tard possible, quitte à bloquer les roues. Avec un pilotage beaucoup plus agressif, et bien Button, non, c'est le style inverse, coulé, mais tout aussi efficace, hein, donc c'est très bien. Et du coup, Button est vu comme un pilote sympathique également dans le paddock, donc tout ça, on va dire, c'est bien parce que son pilotage de montre-moi comment tu pilotes, je te dirai qui tu es, c'est un peu ça l'idée, ça peut se vérifier avec Alonso, hein, je viens de réfléchir, mais ouais, ça peut se vérifier avec Alonso, hein, qui est un pilote assez. Qui est quelqu'un au sang chaud, hein, le tigre des Asturies. Je crois que c'est ça son surnom. Je ne sais jamais si, quel animal c'est. Je crois que c'est le tigre. Enfin bref. Le pilote des Asturies au sang chaud. Ça peut se vérifier, puisqu'il a un pilotage, on va dire, que ce soit au départ ou sur les fins de Grand Prix, assez, on va dire, pas agressif dans le mauvais sens du terme, mais on va dire très attaquant. Il attaque pas mal. Il est vraiment à fond tout le temps. Il se donne à fond. Eh bien, Button, voilà, c'est ça, c'est le pilote sympathique, gentleman driver, qui va tout doux avec le volant, on va dire, très coulé, mais très efficace, puisque, évidemment, il ne force pas sa machine, et du coup, il limite tout ce qui peut être sous-virage, sur-virage, sur-virage, je sais pas s'il connaîtra un sur-virage un jour, avec ce pilotage, hein, bon, en tout cas, ça limite ce genre de choses, et ça lui permet de faire des bons tours. Button également, comme je l'avais dit en tout début, c'est un pilote très sous-coté, et ça je l'ai toujours regretté. Et bon, quelque part ça se comprend hein, quand on regarde sa carrière et quand on va regarder son palmarès en chiffres tout à l'heure. Mais voilà, faut vraiment connaître la course et regarder à tous les niveaux pour avoir vu son potentiel à l'époque. Bon, en 2004 c'était un peu plus évident, mais par exemple en 2002, 2002-2003, il fallait vraiment. Regardez précisément ce pilote pour voir qu'il avait quelque chose. Mais on pouvait le voir. On pouvait le voir quand même. C'était pas invisible. Hein. C'est pas apparu en 2004 d'un coup comme ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, dans sa carrière avant, il a remporté des titres. En karting, il avait un sens de la course quand même assez aiguisé. On a pu le voir. Donc il n'est pas apparu de nulle part comme ça. Hein. Ce n'est pas une fraude. Et voilà. Il faut vraiment pas le sous-estimer. Hein. Si McLaren revient aux affaires. Et je l'espère parce que le pilote britannique a beaucoup à offrir à la F1. Eh bien, voilà, il faudra compter sur lui. Et d'ailleurs, Alonso a envie de compter sur lui. Il espère, le pilote espagnol, il espère que l'année prochaine, ce sera une relation beaucoup plus tendue entre les deux. Bon, beaucoup plus tendue dans le sens, en fait, je pense, Alonso voulait dire que s'il y a une relation tendue, ça voudra dire que les deux luttent vraiment et qu'il y a vraiment un enjeu au championnat. Alors que cette saison. Bon, certes, il y avait un enjeu et Alonso se donnait pas mal et Button a fini devant, mais c'était différent, c'était plus des séances d'essai, donc bon, ça donne pas vraiment l'adrénaline requise à Alonso en tout cas, qui adore ça. Mais voilà, il faut ça à Button parce qu'il a encore beaucoup à offrir à la F1, c'est vraiment un très grand pilote et s'il a une monoplace compétitive, il donnera du fil à retordre à Fernando Alonso, je pense. J'espère hein, voir un pilote qui donne du fil à retordre à Alonso, c'est très bon signe. Hein. C'est très bon signe et c'est signe d'un line-up de pilotes assez compétitif, hein, il faut le dire. Ensuite, regardons le palmarès, justement, j'en parlais il y a 2 minutes. Jenson Button est donc un pilote très expérimenté puisqu'il a participé à 284 Grands Prix, 16 saisons, hein, ça représente 16 saisons au total. Un titre de champion du monde, 15 victoires, on pourrait dire seulement. Mais bon, il n'y a pas forcément eu toutes les occasions possibles. 8 pole positions. Donc voilà, on pourrait dire qu'en qualif, c'est pas ça. Mais pourtant, on a vu chez Baronda en qualif, notamment il avait eu une pole à Imola, je m'en souviens. C'était très fort. Hein. Il avait quelque chose en qualif aussi. Hein. C'est quand même un très bon pilote de qualif. Peut-être pas aussi exceptionnel que certains, mais il ne faut pas l'oublier en qualification. Hein. Franchement, ça reste un très bon pilote. 8 meilleurs tours en course, 50 podiums. Donc là déjà ça augmente un peu au nombre de chiffres. 762 tours en tête qui représentent 3886 km en tête. Et là, pour vous, chers auditeurs, j'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul, je me suis mis sur Google Maps, j'ai sorti la carte version papier, j'ai pris la règle et puis j'ai calculé. Non, j'ai vraiment pris Google Maps, hein, j'ai pas pris la règle et l'échelle avec une vraie carte du monde, évidemment. Et donc 3896 km, ça représente un tout petit peu plus que la distance qui sépare Châteauroux à Sotchi en Russie. Voilà. Vous faites Châteauroux-Sotchi en voiture, eh bien vous ferez le nombre de kilomètres qu'a fait Jenson Button en tête d'une course de F1 dans sa carrière. Voilà, bon, c'est à titre d'anecdote, hein. Ça sert strictement à rien ce que je dis, mais c'est juste pour le fun. Donc j'espère que cette information vous a plu. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît que je fasse le calcul comme ça. Je n'avais pas vraiment eu le temps et puis je réfléchissais encore à la pertinence du truc. Mais bon, j'y trouve assez fun finalement à faire. Donc je le ferai pour les autres pilotes, hein. Ne vous en faites pas, comptez sur moi. Il y en a, ça va être vite vu, hein. Ils n'ont jamais mené un grand prix. Mais je trouverai un moyen de faire un truc marrant à ce propos. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain, dans très peu de temps. Je suis désolé, hein, déjà ce HSD aurait dû être publié en fin de semaine, hein, dimanche. Mais ça n'a pas été forcément facile au niveau du temps à trouver. C'est pour ça que vraiment je ne pourrais pas rajouter d'autres rubriques avant un moment. Hein. Là j'ai vraiment pas le temps, je me rends compte que quand même ça prend un bout de temps. Et en plus j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire autour de mon podcast, mais j'espère que ce que je fais ça vous plaît, parce qu'il y a beaucoup plus de podcasts qu'avant en tout cas, et j'espère qu'ils sont d'une qualité suffisamment bonne pour vous en tout cas, et que ça vous apporte quelque chose dans votre vie de passionné de F1. Et d'ailleurs ne la quittez pas cette vie de passionné de F1, puisqu'on se donne rendez-vous au prochain podcast, hein. La F1 s'est arrêtée au niveau des Grands Prix mais pas au niveau des podcasts, et donc en attendant la prochaine chronique et la prochaine émission, la prochaine rubrique, vivons notre passion. À bientôt tout le monde.